un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est l'histoire d'un juge dont on ne donnera pas le nom, car ce qui nous intéresse n'est pas tant sa personne que le fait que son histoire soit possible, qu'elle ait pu avoir lieu, et ce qu'elle dit de l'institution. Un magistrat qui préside une chambre de comparution immédiate qu'on dit extraordinairement répressif. Mais tant qu'il applique la loi, c'est son droit, même si on peut le regretter. Certains pointent en revanche à son sujet des fautes professionnelles et déontologiques plus embarrassantes. Ce qui est plus étonnant encore, c'est que ce juge est mis en cause directement par ses pairs depuis plusieurs années sur les mêmes faits. Le premier à s'exprimer est un avocat pénaliste à la solide réputation. Après avoir assisté à une audience qu'il qualifie d'irréelle, il décide de prendre la parole et d'envoyer un signalement au bâtonnier. Il a souhaité dans ce reportage rester anonyme pour ne pas, dit-il, mettre en danger ses clients qui risqueraient d'être jugés plus sévèrement encore par ce magistrat s'il s'exprimait en son nom. Je précise également que nous avons sollicité le dit juge qui a préféré ne pas s'exprimer au motif qu'il a, dit-il, diligenté une instance pénale et qu'il ne souhaiterait pas que ses propos soient mal perçus. Un reportage d'Olivia Muller.
Je suis avocat pénaliste depuis 10 ans, je fais vraiment que ça, et les audiences devant une comparution immédiate, c'est vraiment le béaba, le cœur de notre intervention. C'est une procédure qui est violente. On a l'habitude de la violence des comparutions immédiates, on a l'habitude de la violence des peines en comparution immédiate. Par contre, on n'a pas forcément l'habitude de gestion d'audience indigne. Ce qui s'est passé le 28 novembre dernier était particulièrement choquant. Le président dont il est question, à partir de 17h, mais c'est plutôt son habitude d'audience, prévenu que tous les prochains dossiers allaient être envoyés d'office. Donc on se pose la question de la détention provisoire pour un des prévenus qui manifestement a un profil qui est inséré. Celui-ci se voit, oppose aussi une situation médicale assez particulière, il a des pathologies. Ce sont des arguments qu'on utilise, nous, en défense, pour dire, voilà, on ne peut pas le mettre en détention parce qu'il est fragile physiquement, etc., etc. À ce moment-là, le président lui notifie son mandat de dépôt, et à ce moment-là, la décision est juste sévère, mais elle n'est pas injuste, elle n'est pas indigne ou pas. Ce qu'il est, c'est ce qui suit.
Un jour, je me suis fait arrêter pour des faits de violence reconnus. J'ai donc passé 2 jours en garde à vue. Ayant été arrêté un vendredi, je suis passé en comparution immédiate le lundi. Je rentre dans le box, j'avais un avocat commis d'office. J'essaye aussi d'analyser le magistrat qui est là ce jour-là. Mon tour arrive assez tardivement et effectivement, je sens qu'il est un peu agacé, un peu pressé, et qu'il n'est pas réceptif ou qu'il n'est pas à l'écoute des personnes qui témoignent. Je le sens parce que en le regardant, je vois qu'il ne regarde personne. Il a la tête dans les papiers. Et puis il y a autre chose qui m'avait un peu marqué, c'est le fait que, étant pressé, il a dit à plusieurs reprises « Bon, ça, on ne fait pas l'examen de personnalité. » Et effectivement, quand mon tour est arrivé, je ne me sens pas du tout écouté. De mes souvenirs, on m'a posé une seule question, qui était ce que je faisais dans la vie. Et donc arrive le délibéré où c'est également d'une extrême rapidité. Enfin, il n'y avait pas d'explication, etc. Donc moi, j'ai juste compris que je me suis retrouvé en détention provisoire. Voilà. Quand j'ai un peu compris que j'allais pas sortir immédiatement, je suis tombé dans les pommes. Et après, je vous avoue que c'est flou, mais c'est pas plus mal parce que il y a d'autres moments plus joyeux à vivre dans la vie, je pense.
Ce qui suit, c'est que, pris de panique, le prévenu qui se voyait perdre son travail, qui se voyait... sa vie était détruite parce que c'était la première incarcération pour lui, voit qu'il vrille et puis il tombe. Il tombe de tout son poids, sans se rattraper, sans mettre les mains devant. Il tombe dans l'indifférence du tribunal. Avec les policiers, on essaie de le remettre sur le banc, mais on a beaucoup de mal parce que l'endroit est exigu. On y arrive quand même. On commence à constater à ce moment-là que le président s'impatiente. L'audience est maintenue, étonnamment. Donc il y a pas mal de gens qui protestent, des avocats qui étaient là, même le procureur qui était là, qui proteste. Et la sécurité incendie arrive. Et ça énerve le président, parce que ça fait du bruit. Donc il enjoint aux pompiers de faire moins de bruit, sinon il les évacuera manu militari de la salle d'audience. Il suspend l'audience et tout le monde se réunit autour du prévenu qui était bombé dans les pommes. Et on voit Monsieur le Président sortir sans robe de l'arrière de la salle. Pas un mot sur le prévenu, pas un regard pour le prévenu. Le Président pointe du doigt les membres de la sécurité incendie qui étaient là, en disant « Tout à l'heure, quand je vous ai dit de faire moins de bruit, vous ne m'avez pas obéi, je vais faire un rapport. » Et revient dans la salle des délibérés, sans un mot pour personne. On est habitué à la sévérité des juges. Voilà, on se donne des noms entre avocats, on sait qui ils sont, on sait qu'il y a des juges qui sont moins sévères, des juges qui sont carrément laxistes, il y en a qui sont plus juridiques, il y en a qui sont plus sur l'émotion, on a tous les types de juges possibles. Par contre, on ne peut pas être habitué, on ne peut pas accepter en fait, que des conditions indignes d'audience soient menées comme ça. C'est une situation qui est quand même connue de tous les avocats pénalistes. Voilà, on connaît tous son nom, on sait tous qui c'est, on sait tous comment se passent ces audiences.
Je suis avocat, alors j'irai pas jusqu'à dire spécialisé en droit de l'immigration, mais j'interviens beaucoup dans ce contentieux. Et il y a quelques années, j'ai eu à connaître Monsieur Tiss, qui a siégé pendant peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus de 2 années. Et j'ai donc dû, comme un certain nombre de confrères, subir finalement les audiences avec ce magistrat qui se déroulait pas comme devant tous les autres magistrats de cette juridiction. On est face à un magistrat qui est très courtois. Donc au premier abord, on ne s'attend pas finalement à ce qu'il nous attend. C'est plus dans le rendu des décisions. Il y a une audience qui se déroule d'une certaine manière. On reçoit la décision et là, on a le sentiment qu'on n'a pas assisté à cette audience en vérité, qu'on n'était pas là et que tout ça s'est déroulé sans nous. Je me demandais comment il était possible pour un magistrat d'écrire dans une décision qu'il n'y a pas de passeport dans un dossier alors qu'il y a un passeport. Donc si ça arrive une fois, on peut considérer que c'est une erreur d'inattention. 2 fois, cette coïncidence est surprenante. 3 fois, il n'y a plus d'erreur d'inattention. C'est une volonté de ne pas révéler la réalité du dossier, par exemple. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, par la suite, avec plusieurs confrères, on a voulu faire part au Conseil supérieur de la magistrature des nombreuses difficultés qu'on rencontrait et qui concernaient pas une dizaine de décisions, mais une centaine ou plus de décisions. Il y avait le droit avec les magistrats et la loi et le droit avec Monsieur Tiss.
Le problème que moi j'ai avec ce président, c'est même pas un problème de sévérité, c'est un problème de tenue d'audience. Ça veut dire qu'il faut nous s'imposer dans l'audience, interrompre le président, quitte à monter le ton parce qu'il ne nous entend pas et il continue son audience comme si on n'existait pas. Ce qui se passe quand on interrompt normalement un magistrat qui se trompe sur un procès-verbal, c'est que déjà il écoute l'avocat, il s'arrête. À ce moment-là, tout le monde regarde son dossier et même le magistrat le plus sévère du monde, s'il s'est trompé, va dire « Effectivement, maître, je me suis trompé, je reprends et je corrige, etc. » Ça, c'est ce qui se passe dans 99% des cas. Les magistrats ne sont pas des menteurs. On ne peut pas travailler avec un magistrat qui, manifestement, lit l'inverse d'un procès-verbal, n'accepte pas qu'on l'interrompe, n'accepte pas qu'on lui fasse remarquer qu'il se trompe sur tel ou tel procès-verbal, et va en fait continuer son audience comme s'il ne s'était rien passé.
La première fois que j'ai été confronté à Monsieur Tiss, je l'ai vu en juge unique. C'est-à-dire c'est des audiences en fait correctionnelles où il y a des personnes qui sont poursuivies pour des délits. Mais comme ce sont des délits qui sont estimés pas très graves, ils peuvent être jugés par un seul juge. Je suis Martin Méchin, donc je suis avocat pénaliste. J'exerce depuis 2009. Et Tiss avait la réputation à ce moment-là de délivrer des mandats de dépôt en juge unique, ce qui est possible juridiquement, c'est pas du tout interdit, mais c'est extrêmement rare. Et donc c'était évidemment une inquiétude quand on arrivait devant lui pour ce type de procédure où normalement on est relativement tranquille, où là le client risquait de partir en détention. Je n'ai, je crois, depuis 2009, jamais revu ça. C'est-à-dire, j'ai quasiment jamais vu de mandat de dépôt délivré en juge unique. À ma connaissance, c'était vraiment un trait marquant de TIS.
Dès 2005, un article du Canard Enchaîné interpelle sur celui que certains ont appelé le juge 100%. À l'époque, il est juge des libertés et de la détention, et il aurait maintenu en rétention, durant une certaine période, 100% des étrangers qui lui étaient présentés. C'est alors avec beaucoup d'étonnement que le monde judiciaire apprendra par la suite la nomination de ce magistrat dans l'un des plus grands tribunaux de France. Il détient un poste clé et ses pouvoirs sont importants. Quelques mois après son arrivée, un avocat, qui se fait appeler Maître Eolas, interpelle sur Twitter. Bon, les confrères, et le bâtonnier. Il y a un moment où s'écraser face au président problématique qui sévit actuellement, tout le monde sait de qui je parle, devient de la lâcheté, de la complicité. Quelques jours plus tard, deux jeunes avocats, Martin Méchin et Raphaël Kempf, décident de nommer directement ce magistrat.
Il faut dire les choses parce que, oui, c'est problématique. Et en fait, c'est le fait de nommer le magistrat qui a fait réagir. Enfin, des magistrats sur Twitter m'ont quand même dit « Mais quand même, vous vous rendez compte, Samuel Paty, c'est ce qui lui est arrivé ?» Alors non, c'est pas du tout ce qui est arrivé à Samuel Paty, évidemment. Et évidemment qu'on a le droit de citer un magistrat qui rend des décisions publiques. Donc oui, on peut le nommer, il n'y a pas de difficulté, je ne l'ai pas insulté. On ne l'a évidemment pas menacé. Il y a eu d'ailleurs, à ma connaissance, aucune menace qui s'en est suivie, hein, de qui que ce soit. Et quand j'estime que, en tant qu'avocat, on a des atteintes aux libertés ou qu'en tout cas, on a une justice qui est rendue de manière problématique, je le dis. Alors, je sais que certains n'apprécient pas, qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de commenter des décisions de justice. Eh bien, écoutez, moi, j'estime que c'est mon devoir de dire si un magistrat pose effectivement problème. Après, du point de vue déontologique et du point de vue de la hiérarchie des magistrats, ça reste très secret. Donc, moi, je ne suis pas informé. Je ne savais même pas au moment où je le dénonce sur Twitter qu'en réalité, il y avait déjà eu des signalements, il y avait déjà eu des problèmes entre magistrats. Certains magistrats refusent de siéger avec TIS, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire, vous refusez de siéger avec un collègue, c'est pas anodin. Ça doit à minima poser la question.
Je suis Jean-Claude Bouvier, je suis premier vice-président et coordonnateur du service de l'application des peines. J'ai demandé à ne plus siéger à ses côtés. De toute façon, c'est compliqué, si vous voulez, parce que je ne connais pas réellement TIS. Nous avons été magistrats dans les mêmes juridictions. Je n'avais jamais siégé avec lui avant l'audience du lundi 13 septembre 2021. Lors de cette audience, ce qui m'a tout de suite frappé, c'était que M. Stis faisait des rapports d'audience qui étaient extrêmement succincts. Ce qui fait que j'étais assez frustré de cette situation, puisque j'avais besoin, moi, d'avoir plus d'éléments, notamment sur le parcours, le profil des personnes. Et ce qui a posé d'importantes difficultés, c'est que sur deux dossiers notamment, les prévenus qui étaient dans le box contestaient les faits qui leur étaient reprochés. Et donc, à ces deux occasions, il a fait valoir tout de suite son point de vue. Il a fait valoir qu'il croyait en leur culpabilité. Dans un des dossiers, d'ailleurs, il a dit aux trois prévenus, avant même de commencer à faire le rapport de l'audience, que les faits parlaient d'eux-mêmes et qu'il n'avait pas besoin d'aller plus loin dans son rapport. Et il a ensuite fait un rapport dans lequel il a fait état d'éléments qui ne figuraient pas au dossier. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un problème dans sa conduite d'audience.
Ça veut dire qu'il a inventé des éléments.
Il a inventé des éléments, si vous voulez. Faire état de sa conviction à l'audience, on devrait éviter de le faire, mais ce n'est pas si rare que ça. Mais ce qui pose problème, c'est la conjonction entre cette conviction affirmée et le fait qu'ensuite, finalement, pour nourrir cette conviction, il va donner des éléments qui ne figurent pas dans les dossiers.
À titre d'exemple, lorsque le magistrat en question assure que des manifestants ont pu être identifiés formellement, le dossier ne contient en réalité qu'une simple fiche d'interpellation décrivant un homme masqué vêtu d'une veste bleue. Aucune reconnaissance formelle, donc. Dans une deuxième affaire, le magistrat assure l'identification par un témoin de trois jeunes à qui on a reproché des vols avec dégradation. Mais dans le dossier, aucun procès verbal d'audition du témoin en question. Enfin, dans une troisième situation, un homme de 19 ans est condamné à 10 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour vol de poussette. Il n'y a pas d'aménagement de peine, donc, mais le magistrat ne motive pas sa décision, ce qui est une faute.
Donc j'ai décidé de faire ce signalement, je l'ai fait parce que j'estimais qu'on n'était pas dans les cas de figure que je vous ai décrits, qui sont malheureusement courants, dans lesquels on fait des erreurs. Là, je trouve qu'on est vraiment au-delà de la simple erreur, au-delà de l'inattention, au-delà de la simple situation de la personne qui ne connaît pas ses dossiers et puis qui extrapole un peu. Et c'est pour ça que je décide de faire ce signalement au président du tribunal, en faisant état de ce que la conduite des débats n'était pas acceptable et que, en l'état, je refusais de continuer à siéger avec ce magistrat.
Quelques mois plus tard, un article paraît dans Libération. Jean-Claude Bouvier prend la parole publiquement sur le sujet pour la première fois.
Alors, c'est vrai que quand on a lu les propos de M. Bouvier, on était tous, agréablement surpris par son courage, hein, parce qu'il faut un vrai grand courage pour mettre en cause un autre magistrat. On était contents d'avoir un magistrat qui pense comme nous, sachant que beaucoup de magistrats pensent comme nous. Et parce qu'on discute aussi entre magistrats et avocats, on discute avec les greffes, c'est une situation qui est connue par tout le palais. Quand ce président a été nommé aux comparutions immédiates, on en a nous-mêmes, parce qu'on connaissait aussi d'autres tribunaux, on en a déduit que c'était une politique pénale de la présidence du tribunal judiciaire d'extrême sévérité en comparution immédiate. Voilà.
Pourquoi ?
Aucune idée.
J'aimerais avoir un éclaircissement sur cette question de la politique pénale de la présidence, mais évidemment, il va vous répondre, mais non, c'est juste de la gestion administrative. Moi, j'avais besoin de mettre un magistrat à rendre vice-président à la présidence de la CI. Bon, ben voilà, il y avait lui, il a des bons états de service, il est pénaliste, ça fait 15 ans qu'il fait du pénal, donc j'ai estimé, voilà, c'est ça qui va vous répondre, évidemment. Mais en revanche, faut pas non plus nous prendre pour des imbéciles. Voilà, et on voit ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on constate ce qui se passe, et donc, il y a une politique pénale, assumez-la, votre politique pénale. Et dites-le, mais je pense que ça ne sera pas dit.
Le président du tribunal nous reçoit. Chaussures vernies et costumes soignés, il accueille dans des canapés en cuir d'un blanc immaculé. Nous pouvons enregistrer l'entretien, mais pas le diffuser. Il préfère que nous reprenions ses mots au micro, pour ne pas en rajouter, dit-il. Au bout de quelques minutes, il assure, en effet, avoir nommé le magistrat en question au regard de son dossier solide et de ses très bonnes évaluations. Il souligne aussi qu'il n'a pas reçu tant de signalements d'avocats que cela. Alors, aucune procédure disciplinaire n'a été adoptée. Pour cela, il faudrait, dit-il, relever une appréciation tronquée des dossiers de manière générale, répétée et absolue. Et d'ajouter, je ne suis pas dupe, certains mènent un combat plus global contre les comparutions immédiates. On lui fait alors remarquer que des signalements avaient déjà été produits lorsque ce magistrat était ailleurs, à d'autres fonctions. Silence.
Moi, lorsque je signale ces dysfonctionnements, je souhaite sortir un petit peu de cette logique à laquelle j'ai moi-même participé, qui consiste finalement à...
Jean-Claude Bouvier.
À tout accepter, quoi. Parce que c'est vrai que les choses ne vont pas toujours très bien dans l'institution judiciaire, donc on finit un peu par s'habituer. Mais de fait, je n'accepte pas que des audiences se déroulent de cette façon, puisque... Ce sont des audiences qui sont quand même avec des lourds enjeux. Des peines de prison sont prononcées, des personnes peuvent être privées de liberté. Donc ça exige de nous, magistrats, qu'on fasse attention, quoi. Je ne signale pas la sévérité d'un magistrat, je signale pas son caractère répressif. Ce n'est pas ça que je signale. Moi, je signale sa conduite d'audience, je signale ses préjugés, et j'attends que l'institution réponde à ça.
Le tribunal a accusé réception du signalement de Jean-Claude Bouvier. Mais pas de réponse détaillée. Monsieur Bouvier a simplement été affecté, comme demandé, à une autre chambre. Il a également reçu quelques soutiens, officieux et discrets, car l'indépendance du magistrat est reine, et même lorsque des fautes pourraient être commises, on a l'habitude de se taire. Le président du tribunal assure être sorti par le haut de cette crise, en demandant des explications au magistrat mis en cause et à son chef de service. Un rappel à l'ordre, en somme. En attendant, Jean-Claude Bouvier est-il le seul magistrat à avoir remarqué des dysfonctionnements ?
Je ne peux pas vous dire s'il y a beaucoup de signalements qui sont faits par les magistrats. Ce que je sais, c'est que la magistrature, comme toute profession qui est un peu en crise et tout, L'institution judiciaire est assez précarisée, c'est des conditions d'exercice assez compliquées et tout. Dans ces contextes-là, les professionnels ont tendance un petit peu à se replier sur eux-mêmes. Donc le fait de dénoncer un collègue est pas forcément bien vu.
Ce qui heurte les magistrats, c'est le fait qu'un de leurs collègues soit nommément désigné dans la presse et que ses pratiques professionnelles soient critiquées. Je suis Kim Reflet. Je suis actuellement la présidente du syndicat de la magistrature. Il y a quand même une difficulté, voilà, à accepter de rendre publique une critique de certains comportements. Parce qu'il y a quelque chose de tabou quand même à dire que tel ou tel collègue a des pratiques contraires à la déontologie. C'est difficile. Et quand on essaye de le dénoncer, on a du mal à être entendu en interne.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solidarité de corps. J'ai l'impression que finalement, dans un contexte où c'est vrai, les magistrats sont quand même souvent critiqués, hein, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ne font pas, pour la lenteur de la justice, pour la qualité discutable parfois de leur travail. Tous les gens qui participent à l'institution judiciaire savent que c'est une institution en souffrance. Bon, je pense que de fait, il y a des mécanismes un peu de repli sur soi qui fait que dénoncer sur l'extérieur, c'est un peu comme si on ouvrait... si on fragilisait encore un peu plus l'édifice. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
Il y a quelques mois, le Conseil supérieur de la magistrature a pourtant rappelé que l'obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme. En attendant, le magistrat mis en cause a donné une unique interview au journal Valeurs Actuelles. Il annonce qu'il souhaite porter plainte contre Libération et contre X. On y apprend également qu'il sera défendu par Maître Pardot, l'avocat d'Éric Zemmour.
Ben, il y a un dépôt de plainte, il est effectivement possible que je sois visé, mais de toute façon, je ferai état des éléments que j'ai portés à la connaissance du président de la juridiction. Donc, bon.
Alors, j'ai appris que Tiss avait déposé plainte. Alors, je ne sais pas, je crois, il y a diffamation, violation du secret du délibéré. Je pense que je ne suis pas visé par la plainte parce que ce que j'ai dit est assez banal finalement et tout le monde le dit, donc je n'ai fait aucune révélation. Mais ça dénote la volonté certainement de placer la chose sur un terrain encore plus politique et notamment alors, l'annonce de ce dépôt de plainte se fait via un média qui est quand même, on va dire, classé bien à droite, ce qui n'est pas
Valeurs Actuelles,
ce qui n'est pas un hasard. Je pense que il y a une volonté de sa part d'assumer, alors ok. Mais en fait, c'est pas parce qu'on défend quelqu'un qui est poursuivi pour un petit trafic de stup et qui va prendre 6 mois ou 1 an. On n'est pas sur la défense d'un terroriste ou d'un tueur en série. Mais c'est pas pour ça qu'on va tout accepter, en fait.
C'était Le juge et l'Omerta, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Somaya Dabesh. Je précise que le magazine Valeurs Actuelles, qui a consacré un article à ce juge, le déclare la cible d'une campagne organisée, affirme qu'il a une notation impeccable et que, tandis que certains l'attaquent pour des raisons idéologiques et non déontologiques, d'autres le défendent, je cite, « conscient notamment des attentes de fermeté de la population ». Le juge, quant à lui, a attaqué le journal Libération qui a relayé en premier les critiques de ses pairs. Il a considéré, je cite, que son honneur était mis en cause de façon mensongère, autant que sa façon de juger ou de traiter une audience. Dans Valeurs Actuelles, enfin, il affirme, je cite, avoir le soutien de nombreux collègues du parquet et du siège, ainsi que celui de nombreux avocats qui ont assisté à ses audiences et peuvent attester de sa courtoisie envers les parties. Merci pour cette émission à Jean-Claude de Bouvier, à Kim Reflet, à Nicolas de Sapali, à Martin Méchin, à Raphaël Kempf, à tous les magistrats, avocats et justiciables anonymes que nous avons entendus. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Rita Ruggirello, notre stagiaire.